Fet plesir un or como sud. Jet de bu marxet de nou el solide a pol sud a los ans.
Le développement durable, eh bien, c'est un sujet brûlant d'actualité pour ouvrir le premier volet thématique de cette émission, l'environnement. Les objectifs du développement durable adoptés en septembre par les Nations Unies montrent bien que dans la lutte contre la pauvreté, sans réfléchir dans le même temps à la lutte contre le réchauffement climatique. Alors pour évoquer avec nous cette aide au développement qui devient durable, nous accueillons Catherine Rolandin, chargée de communication d'Helvetas. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur les ondes de Radio Django. Vous menez depuis longtemps de nombreux projets sur la thématique de la durabilité. Nous avons également avec nous par téléphone Patrick Kohler. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes sous-directeur du centre écologique Albert Schweitzer, spécialisé dans les énergies renouvelables et la technologie propre. Donc soyez les bienvenus tous les deux déjà sur les ondes de Radio Django pour cette émission spéciale. En lisant les objectifs du programme des Nations Unies pour le développement, on se demande forcément si les prises de position des grands organismes onusiens de ce type ont un effet réel sur le terrain. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être Catherine Rolandin.
Alors oui, d'ailleurs ça a été prouvé avec les objectifs pour le millénaire qui avaient été fixés à échéance de 2015 et dont les résultats ont été publiés avec de bons résultats partiels en tous les cas. Donc c'est un des objectifs qui sont qui donne une impulsion, qui sont contraignants, qui invite à une réalisation, et qui fixe des lignes claires.
Donc vous, ils vous servent vraiment à donner une direction à des projets concrets chez Helvetas.
Alors, chez Helvetas, les projets ont déjà leur direction, ils sont déjà conçus, mais ils s'inscrivent. Les objectifs de développement durable sont vraiment un cadre large dans lequel des projets concrets s'inscrivent sur le terrain.
Et vous, Patrick Kohler, j'ai perdu mon mot. Ces objectifs du programme des Nations Unies, vous les lisez comment ?
Écoutez, pour nous, c'est une formidable opportunité. Il faut se souvenir qu'en l'an 2000, lorsque l'ONU a sorti ses objectifs du millénaire pour le développement, ça a été un processus vraiment top-down qui a été un petit peu catapulté depuis les grandes instances internationales qu'on connaît. Aujourd'hui, je crois que les instances internationales ont réfléchi différemment pour la mise sur pied de ces objectifs du développement durable, et ça a été un processus inclusif dans la mesure où la société civile, le secteur privé, les ONG, de même que les acteurs étatiques du Nord et du Sud ont été inclus dans les réflexions, dans les consultations qui ont été menées autour de ces objectifs. Du point de vue suisse, l'ambassadeur en charge, Michael Gerber, a fait un travail absolument remarquable pour la consultation de la position suisse pour ces différents objectifs. On arrive à des résultats de consensus, certes, mais qui tracent la voie sur des thématiques très précises sur lesquelles nous nous engageons depuis longtemps. Et on a débordé vraiment le cadre qui était fixé en l'an 2000. Et on est arrivé vraiment sur un cadre beaucoup plus inclusif. Et je suis persuadé que ces objectifs-là auront vraiment un impact définitif sur le travail des différents les institutions qui doivent y œuvrer.
Mais du coup, à vous entendre, on a l'impression que du coup, ces déclarations d'intention, elles ont une sorte de valeur de norme comme ça, comme une sorte de but à atteindre, puis qu'elles permettront ensuite de faire le bilan.
Absolument. Absolument. Je crois que ce qui est extrêmement important de comprendre, c'est que dès le début de l'année prochaine, des indicateurs très clairs, très précis vont être est dictée pour chacun de ces objectifs, et pas seulement pour les pays du Sud. Et c'est là où, pour moi, c'est aussi extrêmement important, c'est ce changement de paradigme qui veut que ces objectifs du développement durable ne sont plus une vision du Nord un petit peu imposée au Sud, mais chaque pays du Nord va aussi devoir s'engager pour, dans les questions d'inclusion sociale, de lutte contre la pauvreté. Vous savez qu'en Suisse, selon certaines études, on a encore 14% de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc, chaque pays du Nord doit aussi passer par un examen de conscience et travailler sur ces différents éléments. Et les indicateurs pour les pays du Sud seront différents, bien entendu. Mais je crois que il nous appartient en tant qu'ONG d'œuvrer aussi pour atteindre ces différents objectifs et de voir dans quel cadre on peut avoir une petite influence. Nous sommes d'une toute petite ONG, mais je suis persuadé qu'à un niveau micro, nous pouvons également avoir notre rôle à jouer sur ces objectifs.
Catherine Rolandin, vous parliez des objectifs du millénaire, justement, définis par l'ONU. Vous les avez aussi évoqués, Patrick Collère. Notamment, le nombre d'êtres humains sans accès à l'eau potable a été divisé par 2. Donc, effectivement, c'est une victoire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque, des fois, de s'arrêter à « Ah, bah, cet objectif a été rempli, voilà, passons à l'objectif suivant » ou comment est-ce qu'ils s'inscrivent quand même dans une durée longue, ces objectifs ?
Alors, l'accès à l'eau reste un défi permanent, d'autant plus qu'avec le changement climatique et le mode de consommation actuel à l'échelle mondiale, les ressources en eau sont menacées à tous les niveaux. Donc, ça reste effectivement un objectif permanent et prioritaire. On estime qu'environ un peu plus de 400 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau, mais dans les faits, ce chiffre représente surtout, tient compte surtout des personnes, des infrastructures, mais on peut l'élargir beaucoup plus, le multiplier si on tient compte de l'eau potable. En fait, le nombre de personnes qui n'ont pas vraiment accès à l'eau potable est beaucoup plus important que ça.
Alors, Helvetas, vous êtes une association, disons, d'une certaine taille, hein, par exemple, comparée au Centre Albert Schweitzer. Comment vous travaillez pour être efficace, tout en étant impliquée dans plusieurs pays en même temps, et comme ça, avec une sorte de diffusion assez large de vos actions ?
Alors, effectivement, il y a un engagement dans 32 pays actuellement. Dans chacun de ces pays, il y a des collaborateurs locaux qui sont très nombreux dans chaque pays et qui font le relais avec les populations finalement, et parfois aussi pour des questions de langue. Hein, il peut y avoir des difficultés de communication. Et ces équipes sont très actives et mènent un travail remarquable au quotidien. Dans des projets qui incluent souvent différents volets. Si on pense à l'eau, c'est effectivement l'approvisionnement en eau, mais c'est aussi la gestion de l'utilisation des ressources, l'entretien des infrastructures et l'implication des autorités locales dans l'administration au niveau communal.
Donc on voit un fonctionnement qui s'appuie vraiment sur un réseau et sur des relais nationaux. À l'inverse, Patrick Collère, le Centre écologique Albert Schweitzer, c'est une organisation de taille plus modeste. Vous disiez que vous travaillez justement à des espèces de micro-actions. Comment ça se traduit concrètement sur le terrain ?
Alors, ça se traduit par des collaborations qui sont très fortes. Je vais peut-être juste tempérer un tout petit peu. Effectivement, nous travaillons dans 3 pays en Afrique avec des projets qui ont un certain volume, qui ont une certaine importance aujourd'hui. Et pour nous, c'est très important de lier des partenariats, jouer sur des bras de levier essentiels avec d'autres organisations. On travaille grosso modo avec une trentaine d'autres organisations. J'en profite pour souligner un partenariat qui date de cette année avec Helvetas à Madagascar sur l'accès à l'eau, où Helvetas effectivement a des compétences extrêmement précieuses, et de notre côté on a formé sur le terrain des artisans à même de fabriquer des pompes photovoltaïques. Et voilà, ensemble, on arrive à mettre nos compétences à profit pour des villages qui sont parfois très éloignés et qui ont un besoin d'accès à des ressources de base comme l'eau, l'électricité ou d'autres ressources de base. Et je crois que ça, c'est une des clés. C'est la collaboration, c'est la fin du travail en silo, que ce soit d'une manière par rapport aux institutions, mais également du point de vue thématique. Et c'est aussi les objectifs du développement durable, comme ils ont été pensés aujourd'hui. On souhaite qu'on ne travaille plus uniquement dans l'eau, mais on travaille dans l'eau pour des questions de santé, pour des questions d'irrigation au niveau agricole. On travaille au niveau de l'énergie, pas uniquement pour avoir de l'électricité, mais également pour faire profiter des écoles. Donc l'éducation aura également des retombées du travail au niveau de l'accès aux énergies pour tous. Voilà, vraiment décloisonner, que ce soit les institutions ou décloisonner les thématiques. Et j'ajouterais même arrêter peut-être ce qui a été fait il y a quelques années, de travailler uniquement entre ONG et acteurs publics, mais vraiment intégrer le secteur privé, arrêter de le diaboliser. Le secteur privé a un rôle extrêmement important, un rôle clé à jouer dans le développement, et à nous de les intégrer dans des réflexions plus durables.
Alors, effectivement, peut-être juste pour rebondir. Allez-y, Catherine Rolland. Par rapport à cette question du secteur privé, il y a aussi plusieurs projets où des petits entrepreneurs sont associés, par exemple, pour la fabrication de réservoirs pour l'eau qui recueille l'eau de pluie, notamment. Donc il y a effectivement la volonté constante aussi d'intégrer et de développer ce secteur économique local.
On vous remercie, Patrick Kohler, d'avoir donné votre avis par téléphone. Je rappelle que vous êtes sous-directeur du Centre écologique Albert Schweitzer. Bonne soirée.
Merci à vous, pareillement, et à bientôt. Au revoir.
Merci. Et puis également Catherine Rolandin, à nos côtés, chargée de communication pour Helvetas. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et à très bientôt. Et puis si vous désirez soutenir ces projets, en tout cas soutenir ces associations, vous pourrez les retrouver bien entendu au marché de Noël solidaire, ici à Pôle Sud, les 10 et 12 décembre.